Bonjour, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast La Voix des Invisibles. Ici, on parle de ceux que l'on n'entend pas. Ici, on met en mots des parcours de travailleurs sociaux. Et ici, en toute simplicité, je leur donne la parole pour qu'ils puissent se raconter, nous raconter, par où ils ont commencé, par quoi ils sont passés, leur quotidien de travail, là ou les situations marquantes qu'ils ont accompagnées, le ou les publics pour qui leur engagement est plus fort, parce que oui, on a tous nos préférences. Qu'est-ce qu'ils retiennent de toutes ces rencontres humaines, leur avis sur le travail social d'hier et celui d'aujourd'hui, et bien plus encore. J'espère que vous trouverez ces parcours aussi inspirants et enrichissants que moi. Belle écoute à vous. L'adolescence. Amélie, ça fait 15 ans qu'elle traverse cette période sous toutes ses formes. Elle a démarré à la protection judiciaire de la jeunesse, puis elle a œuvré en maison d'enfants à caractère social, puis en institut médico-éducatif et enfin en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Autant de services qui accueillent des adolescents, des problématiques et des profils variés sous différentes politiques sociales. Je vous laisse avec cette éducatrice et son parcours aussi riche qu'inspirant. Belle écoute à vous. Bonjour et bienvenue sur La Voix des Invisibles. Merci d'avoir accepté que je puisse t'interroger aujourd'hui. Je vais te laisser la parole pour te présenter, nous dire ton prénom, ta formation initiale et depuis quand tu es dans le social.
Ok, bonjour. Je m'appelle Amélie, j'ai 39 ans. Je suis éducatrice spécialisée depuis plus de 15 ans.
D'accord.
Diplômée en 2004, donc okay. Voilà, de l'IRTES de Dijon.
D'accord, ok. Qu'est-ce que tu voulais faire, toi, quand tu étais petite? C'était quoi un petit peu tes envies?
Alors, sur les envies, j'ai fait énormément de natation quand j'étais petite. Donc, c'est vrai qu'il y avait cette idée d'être maître nageur, comme pas mal de mes copains à la natation. C'est quelque chose qui est resté un petit peu dans le coin de ma tête. Et très vite, le travail social est arrivé dans mes envies. Donc, dès le collège, je crois, okay. À peu près. Donc, je me suis fixée très tôt.
Oui, c'est tôt, effectivement, ouais. Le collège, d'avoir l'éveil de cette profession qu'on entend finalement peu parler au collège. Fin...
Ouais. Après, c'était pas l'envie d'être éducateur spécialisé dès le collège. C'était plus l'envie de travailler sur de l'humain, travailler avec les autres, de se sentir utile, d'aider. À l'époque, t'es ado, donc t'as envie d'aider les autres, d'aider tes semblables. J'avais une envie tout de suite de travailler avec des adolescents très vite.
Ok.
Dès que j'aurai atteint l'âge adulte, bien sûr.
Tu passes les concours
Je passe
après.
Les concours, mes premiers concours, je les passe en terminale, avant d'avoir le bac. Pour la rentrée de septembre suivante, je crois qu'à l'époque j'ai passé que le concours de Dijon.
D'accord.
Que je n'ai pas eu. Du coup, j'ai été inscrite. Je me suis inscrite à la Croix-Rouge, à un organisme de formation de prépa concours.
Ok, donc tes premiers pas un petit peu là à l'IRTES. Comment, quand t'es arrivée, tes premières impressions, comment?
Alors c'était particulier parce que moi je sortais vraiment du lycée, hein. J'avais 19 ans, lycée, bac et une année de prépa concours en petit comité. J'arrive dans cette école avec à l'époque. Alors aujourd'hui je trouve que ça a changé parce que je suis pas mal de stagiaires, mais à l'époque l'essentiel de ma formation c'était des gens qui avaient bien pratiquement 10 ans de plus que moi, qui avaient de l'expérience, qui venaient qui était apprenti, voilà, et je me retrouve un petit peu bébé là au milieu. On n'était pas nombreux à être des petits bébés à l'IRTES, dont une amie qui est toujours mon amie aujourd'hui. On s'est très vite rapprochés par notre âge, par notre, je pense, notre immaturité aussi. Mais voilà, c'était plutôt ça qui est ressorti en premier. Le côté... formation professionnelle, j'étais pas encore dedans, quoi.
Oui.
Voilà.
Ton premier stage, tu choisis ou on te dit de le faire où, du coup?
Moi, j'avais envie de faire mes premiers stages dans le handicap parce que c'est quelque chose qui ne m'intéressait absolument pas. et je voulais éliminer ça
c'est
tout
drôle.
De suite des cases. Voilà.
Je voulais ça et après, on m'en parle plus.
Voilà. Bah, puis c'était un peu parce que on a été obligé d'aller dans différents domaines, sur les différents stages. Et je me disais, je me débarrasse de ce que j'aime pas. Et en plus, je me sers de mes stages pour confirmer que ce n'est pas du tout que j'aime. Comme ça, je me casserai pas la binette une fois diplômée de m'engager sur des contrats qui finalement ne correspondent pas. Donc, IME, premier stage. Alors là, pour le coup, je suis partie direct à IME au CERF.
Alors, IME, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Institut Médico-Éducatif.
Tout à fait.
Et est-ce que tu peux nous préciser l'âge, le public
Alors, le public des enfants handicap mental, léger, moyen, ce qu'on appelait à l'époque, sur des tranches d'âge. Alors, ça commence à dater. Je me souviens être sur un groupe d'enfants autour des 10-12 ans, voilà.
D'accord. Ok. Donc, tu retrouves l'adolescence, jeune adolescence, on va dire début d'adolescence, mais avec la particularité d'être porteur d'un handicap.
Tout à fait.
Comment tu le vis, ce premier stage, finalement ?
Particulier. Un terrain de stage, un IME très, très vieux, très vieillissant.
D'accord.
Avec des professionnels qui étaient en poste depuis toujours.
D'accord.
Perdus au fond d'une zone industrielle très grisonnante, pas du tout accueillant.
D'accord.
Quand t'arrives de l'extérieur, je me souviens passer en bus devant au moins 3 ou 4 usines avant d'arriver dans ce petit coin perdu et bien isolé et caché. Ça met un frein. Après, des gens accueillants. Et une première expérience, la découverte de l'autre, du vrai travail social. On n'est plus sur les missions de BAFA, d'animateur, de ce qu'on a connu, reconnu encore et encore. Là, il y a des vrais projets derrière, toute la dimension projet.
Okay.
En fait, c'est plus ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants ? Voilà, c'est pas que de l'occupationnel.
Oui,
ils sont là, on s'occupe d'eux, mais malgré tout, il y a des apprentissages, il y a des projets, il y a tout un tas de choses. Et c'est plus ça que j'ai découvert à ce stage-là. Et comment entrer en relation aussi avec ces enfants ?
Bien sûr, qui n'ont pas le même langage que toi,
ou en tout cas qui ne parlent pas.
Et comment c'est sûr. C'est un enjeu vrai, un vrai enjeu dans ce genre de service. Et finalement, l'image que tu avais du handicap, est-ce qu'elle se déconstruit un petit peu ?
Oui, complètement. Complètement. J'ai apprécié ce stage, vraiment. Malgré tout, je ne me projetais pas dans quelque chose de long.
Ok. Ta deuxième année, comment tu l'abordes ?
Deuxième année, beaucoup plus difficile.
Ouais.
Beaucoup plus difficile. Je projetais de partir en stage sur une maison d'enfants à caractère social, par exemple.
Ouais.
Voilà, plus le genre de domaine qui commençait à m'attirer.
Mmh.
Et il s'est avéré que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Voilà, on a des choix on fait des vœux, choix 1, choix 2, choix 3. Et j'ai pas obtenu les choix que je voulais, donc j'ai plus ou moins atterri sur un terrain de stage qui ne m'intéressait absolument pas.
Ok.
Voilà, à savoir un foyer résidentiel pour personnes handicapées qui travaillent en ESAT la journée.
Ok.
Et en plus, je suis tombée sur un groupe qui accueillait des personnes quasiment en retraite, voire déjà en retraite. Donc,
d'accord.
Public vieillissant.
Donc, très adultes,
voilà. ce dont j'étais pas encore prête.
Mais oui.
Très adultes, voire très vieillissants. C'est des vieux établissements, là encore, avec des vieilles pratiques. Et je me suis confrontée à ce stage à la pratique.
Okay.
Et là, ça a été un stage compliqué. Un stage très compliqué. Il y a époque, hein, avec toute mon immaturité, ce que je pouvais en dire, c'était mais ils fonctionnent en carré et moi je suis ronde et ils veulent me faire rentrer dans ce carré et je ne veux pas, surtout pas rentrer dans leur fonctionnement, je ne m'y retrouve pas. Eux n'entendaient pas ça et du coup il y avait cette incompréhension de je veux découvrir les choses mais des choses dans lesquelles je me retrouve et non, nous ici on fait comme ça donc il faut faire comme ça.
D'accord. Il y a un questionnement du sens qui était peut-être plus très présent sur la structure. Et toi, t'arrivais et tu mettais un peu
questions. Les pieds dans le plat de la stagiaire, quoi.
Ouais, voilà. mais parce que quand on accompagne des étudiants, c'est eux qui nous amènent à se questionner.
Tout à fait.
Parce qu'on doit expliquer pourquoi nos pratiques sont comme ça. Et des fois, on se dit, je te l'explique.
Ça me sert énormément dans l'accompagnement des étudiants au quotidien et depuis toutes les années. J'ai toujours ce petit stage un coin de ma tête quand j'accompagne les étudiants. Les vêtures d'hiver, les vêtures d'été. Alors ça, c'est le truc flagrant qui m'a choquée dans ce stage. C'est-à-dire qu'on a affaire à des adultes qui peuvent faire eux-mêmes leur propre choix de vêtements. Il suffit juste de les accompagner. Et on était encore, on est en 2002, 2003, on est encore sur la vêture d'hiver, la vêture d'été. C'est-à-dire qu'on les emmène acheter des vêtements deux fois par an. On va dans un magasin et on fait choisir un pantalon à un monsieur. Ça, je l'ai vécu, On fait choisir un pantalon à un monsieur et on lui achète toutes les couleurs qui existent dans ce pantalon. Voilà. Donc, il revient avec 5 fois le même pantalon et sa vêture d'hiver est faite. Et ça, moi, je questionne. On a toujours fait comme ça, donc on continue de faire comme ça.
D'accord, oui, effectivement, voilà. Ça peut questionner.
C'est ça, surtout qu'on est dans l'accompagnement d'adultes qui gagnent eux-mêmes leur propre argent. Donc, on est encore plus dans l'accompagnement du choix, d'une routine, de tout un tas de choses. Et là, t'es confronté à des pratiques vieillissantes et ça m'a vraiment perturbée.
Donc, mes deux stages handicap adulte-enfant étaient faits.
C'est fait.
J'ai coché les cases.
Donc, du coup, sur la troisième année, j'ai pu accéder à un stage qui me bottait vraiment, sur lequel j'avais vraiment très, très envie d'aller. Centre de toxicomanie.
D'accord.
Donc, rien à voir.
Ouais.
Là, on part sur un truc totalement différent, mais ça me bottait.
Super spécifique, mais
c'est ça.
Toi, t'avais quelle représentation du coup des personnes qu'on pouvait accueillir dans ce genre de centre? Est-ce que...
Alors, moi, je suis allée en stage sur le centre. Alors, à l'époque, ça s'appelait CSST, donc Centre spécialisé de soins en toxicomanie, qui reçoit sur rendez-vous.
D'accord.
Voilà, on n'est pas. Il y avait un lieu d'hébergement, mais là, c'est vraiment le centre où on fait des consultes, donc psychologues, tout un tas de professionnels, notamment éducateurs dans l'accompagnement des gens dans leurs besoins, dans leur parcours. D'accompagnement aux produits, voilà. Donc j'avais une représentation quand même assez minime. Étant donné que c'est des domaines très particuliers.
Bien sûr.
Donc, une représentation de public relativement démuni, en grande difficulté. Voilà.
Et du haut de tes 21 ans. comment t'abordes ce public
Je me rends compte que finalement, le public qui vient, la plupart d'entre eux à mon âge, déjà.
Ouais.
Grosse découverte. Donc oui, il y a des personnes plus adultes, des personnes qui viennent de la rue, des personnes qui viennent là depuis longtemps, qui viennent chercher du soutien, qui sont connues, qui sont accompagnées. Un gros public jeune adulte. Jeune adulte, Donc vraiment dans un cadre préventif là, parce que le rappel à la loi a été fait, on pose le cadre direct, vous êtes dans un entretien vraiment du côté prévention, nous on va juste confidentiel,
bien sûr.
Où on va juste rendre compte du fait que vous êtes venu à l'entretien, que vous êtes présenté à l'entretien, après ce qui s'y passe, reste ici, une vraie évaluation des consos, donc. J'ai même fait mon mémoire là-dessus, du coup, avec des profils différents et la possibilité d'ouvrir la porte en disant vous pouvez revenir, mais là, de votre propre chef.
Et je suis curieuse, du coup, est-ce qu'il y avait des personnes qui revenaient?
Oui.
Ouais.
Ouais. Il y a des personnes qui revenaient, pas forcément pour beaucoup d'entretiens, mais il y a des personnes qui disent vous m'avez mis la puce à l'oreille quand même, j'ai besoin de revenir un peu, voir où j'en suis dans tout ça.
Parce que sur un public jeune, finalement, très, très peu, j'imagine, sont alertes sur finalement ce que c'est une réelle addiction. Et quand vous, en entretien, vous posez le mot addiction, tu sais, quand tu consommes tous les jours, tous les deux jours, c'est une addiction. Et ça peut t'emmener loin dans un peu ta carrière de consommateur. Donc, ça faisait réfléchir. C'est bien, c'est hyper, hyper intéressant.
Oui, après, c'est. Alors, certains adhéraient pas du tout. Hein. Oui. Certains étaient là, contraints et forcés. Oui. Donc, oui, bon. Bonjour,
c'est pas le moment pour eux.
Voilà, c'est pas le moment.
Donc du coup, ce stage, tu te dis, t'en ressors comment ?
Ah bah là, stage d'un an.
Ouais. En plus,
donc,
c'est des longs.
J'en ressors avec une vision quand même. Je suis entrée dans ce stage étudiante, je suis ressortie pré-professionnelle.
Ouais, changée quoi.
Voilà.
Ouais,
grandi, changé. Bon, c'est tout l'enjeu de ma formation, de toute façon. Voilà. De la grandir et la maturité, ça a été tout l'enjeu de ma formation, mais une difficulté aussi d'avoir un public en face de soi du même âge, c'est que je me suis retrouvée face à des gens qui étaient avec moi au collège aussi. Alors pas en entretien, parce que du coup,
tu les croises.
Mais croiser les gens dans les couloirs, comment on se dit bonjour.
Ouais. C'est des vraies questions. Hein.
Voilà,
c'est
comment on s'aborde, questions. Comment on se dit bonjour quand on est chacun d'un côté de la barrière, 6 ans après le collège, quoi, à peine.
Ouais. Donc c'est encore frais, enfin, voilà, les gens se connaissent encore.
Tu te reconnais encore sur des scolarités comme ça. Tu te dis bon, ok, bonjour.
et on peut même se poser la question, est-ce qu'on a envie que la personne... est-ce qu'elle a envie qu'on vienne lui dire bonjour, qu'on la salue ? Est-ce que ça marque qu'on s'est reconnu ?
En général, t'es plutôt timide, tu dis un petit bonjour et tu vois si la personne vient vers toi.
Voilà. Ouais, c'est toujours délicat.
Tu attends plus qu'elle te dise qu'elle t'a reconnu plutôt que toi, parce que tu veux pas mettre les gens mal à l'aise. C'est déjà des démarches hyper complexes de venir ici. T'as pas envie d'être responsable de sa fuite, quoi.
Mais c'est clair, c'est clair. Ok, donc fin d'IRTES.
Fin d'IRTES.
Premier pas, premier job, tu te tournes vers quoi du coup ?
Premier job, je me tourne à la PJJ.
Ah, protection judiciaire de la jeunesse. Ah, tu y vas fort du coup.
Protection judiciaire de la jeunesse. J'ai été extrêmement motivée.
Ah ouais ?
Voilà, tu vois, je ne perds pas de vue mes objectifs.
Les ados, je vous ai demandé les
voilà,
ados.
Voilà, je vous ai demandé les ados. Difficile. Donc, je vais en protection judiciaire de la jeunesse. Alors, cette première expérience, extrêmement formatrice, parce que pour le coup, je me rends très vite compte que pendant mes stages, je n'ai pas fait d'internat et d'hébergement avec dans le domaine de la protection de l'enfance, etc. Et que j'ai des manques. Malgré tout, bon, t'as ton expérience, t'as ton envie, donc voilà. Mais j'ai dû me confronter déjà au rythme internat, au rythme pour moi, mais surtout, qu'est-ce qu'un éducateur d'internat ?
Comment il doit faire attention ?
Ouais. Voilà, c'est ça, comment on accompagne ces jeunes-là, des jeunes qui sont là, alors à Dijon, c'était plutôt de l'alternative de peine, hein.
Okay.
Voilà. Donc, parce que j'ai eu une autre expérience en PJJ plus tard. C'est plus de l'alternative de peine, donc des petits jeunes de 15 ans qui volent des voitures, ce genre de choses. Voilà.
Ok.
Mais qui tiennent, qu'on essaye quand même de maintenir dans des scolarités, dans des formations professionnelles, avec un établissement qui est situé quand même aux portes du centre-ville. Donc, cette facilité-là.
Okay. Voilà.
Et c'est pas un centre ni fermé, ni CER, centre renforcé. Donc, les jeunes sont assez libres de leur mouvement.
Okay.
Ils vont à l'école tout seuls, ils reviennent tout seuls, ils ont des quartiers libres, des sorties autorisées. Donc, comment tu gères ça ?
Ouais. Voilà.
Comment tu gères ça ? Mais il y a le côté pénal quand même.
Oui, quand même. Il y a la primo-délinquance du coup
Tout à fait.
Okay.
Ouais. Primo-délinquance, il y a quand même le côté pénal, les rendez-vous chez le juge, les contrôles judiciaires pour certains, etc.
Ouais.
Donc tout un domaine que je découvre.
Oui, il y a aussi. Toute une législation aussi du coup,
voilà.
Que tu découvres
tout
via
à
la
fait.
PJJ. Okay.
Toute la législation de la PJJ qui est quand même très particulière. C'est très, comment dire, c'est très exigeant, mais c'est une vraie chance.
C'est sûr, ça donne un cadre.
Ça donne un cadre.
Est-ce que tu as en mémoire une situation sur cette première expérience que tu aimerais nous livrer pour illustrer un petit peu Bah, le profil des jeunes, ton action
Écoute, c'est plus... je me souviens des week-ends.
Ouais.
Les week-ends, tu bossais à deux. Tu faisais le week-end entier à deux éducateurs.
Donc, c'était quoi tes horaires?
Alors, en gros, tu faisais 7h, 22h le premier jour et juste la soirée le lendemain, 18-22, un truc comme ça. Et ton binôme faisait l'inverse, faisait la soirée le premier jour et la journée le lendemain. Ce qui veut dire quand même que de 7h à 18h, tu travaillais tout seul les week-ends. Tout seul, ça veut dire sans secrétaire, sans directeur, personne. T'es seul.
Personne en présence avec toi.
Et personne en présentiel.
Combien de jeunes, du coup?
Ça varie. 2, 3, 4, 5, suivant qui est là les week-ends, qui a le droit de rentrer en famille, qui n'a pas le droit. Mais avec, là encore, des sorties autorisées, mais c'est toi qui gères, c'est toi qui contrôles, tu fais les entrées-sorties, etc. Et je me souviens surtout de sentiments d'isolement sur ces temps de week-end. Où tu arrives à 7h, les enfants... Les jeunes se réveillent à 11h et toi, tu es là tout seul au milieu du foyer à attendre. C'est long et même si tu as des choses à faire, t'as un grand sentiment de solitude et d'isolement et tu te dis, mais s'il se passe quoi que ce soit, qu'est-ce que je fais? C'est là aussi où j'ai appris à ne pas perdre mon sang-froid, à ne pas perdre de vue l'objectif que tu t'es fixé, c'est-à-dire protéger tel ou tel jeune ou arrêter tel ou tel jeune et de mettre tes émotions à toi de côté. J'ai vraiment appris cette année-là à mettre tes émotions de côté, à dire, écoute, je suis en train de flipper sévère là, mais il faut pas que ça se voit, il faut que j'aille jusqu'au bout du truc et après j'irai flipper dehors 5 minutes, mais voilà, parce qu'il faut prendre du temps pour soi. Ouais. Il faut pouvoir aller flipper dehors 5 minutes et j'ai appris à le faire sur cette année-là, mais du coup c'est arrivé très tôt.
Oui,
parce
c'est clair.
Que je venais juste d'être
diplômée. Ouais. Voilà. Ça t'a forgé tout de suite.
C'est ça.
Baptême du feu, quoi, cette première année.
Baptême du feu. J'ai vécu une situation extrêmement compliquée cette année-là. Et baptême du feu, quoi. C'est même plus un baptême du feu. C'est-à-dire que y a un de nos jeunes qui est décédé cette année-là. Un des jeunes dont j'étais référente, donc il y a un petit lien supplémentaire, qui s'est fait renverser par une voiture au bout de la rue du foyer, voilà, qui a été victime d'un accident de la route. Alors j'en parle jamais, j'en parle jamais parce que c'est assez particulier comme situation, surtout pour une première année de professionnalisation.
Oui, bien sûr.
Voilà, mais ça forge. Hein.
Ah bah oui, ça forge. J'imagine.
Ça forge dans le sens où t'as tout ton côté émotionnel à toi à gérer, mais aussi tout l'accompagnement des enfants. Et là, je dis des enfants.
Ouais.
Je dis plus des jeunes. C'est des enfants qui se retrouvent eux aussi confrontés à ça pour la première fois de leur vie, pour la plupart. Des enfants qui sont en souffrance et déjà au quotidien. Et là, ça vient réinjecter énormément de souffrance, d'incompréhension, de colère, de tout un tas de choses. Et il a fallu gérer ça. J'étais présente le soir où c'est arrivé en plus. Donc voilà, j'ai cumulé. Hein. Référente, présente,
oui. Gestion de toute l'urgence,
gestion de l'urgence, gestion des enfants qui fuguent pour aller retrouver leurs copains aux urgences, blocage des enfants devant les urgences, quoi. Bon, tout un tas de situations où tu te retrouves pris dans un tourbillon qui aboutit aussi à l'accompagnement des jeunes aux obsèques, etc.
Bien sûr.
Et très difficile, voilà. Très, très difficile. J'espère ne jamais revivre ça de toute ma vie. Je ne le souhaite à personne.
Non, c'est pas des situations...
Mais très compliqué. Et tout s'accumuler sur la première année, je t'avoue que... voilà. Mais du coup, première année, et qui s'est arrêtée sur la période d'été, déménagement.
Ok.
Loin, en Savoie.
Ok. Voilà,
pour le travail de mon conjoint.
Ok. Et du coup, où est-ce que tu cherches? Où est-ce que tu as envie de postuler? Où?
Alors, je débarque en Savoie. Je débarque. Alors, la Savoie, c'est particulier parce que c'est les vallées. Donc, je débarque au fin fond d'une vallée, après Albertville.
Ok.
Au pied des montagnes, vraiment au pied des montagnes. C'est-à-dire que tu regardes, tu sors de chez toi, il y a la base de la montagne, après tu montes.
Voilà, ok.
Donc, cadre complètement différent. Et j'ai un entretien pour une maison d'enfants à caractère social. Là, j'y viens enfin.
Enfin.
Voilà, j'y viens enfin. Il n'y en a qu'une là où j'habite. Je postule là-bas. Je suis prise pour un CDD de 1 mois. Okay. Et j'y reste 7 ans.
Ok.
Voilà.
Bah, y a des fois des lieux comme ça où on met un pied, puis on se dit « ouais, c'est cool », et puis on y reste, en fait.
Tout à fait.
C'est ce qui s'est passé.
C'est exactement ce qui s'est passé. Je viens pour un petit remplacement d'un mois, remplacement qui s'éternise, je sais plus, 1 an au moins. Je tombe enceinte de mon premier enfant, je signe mon CDI juste avant de partir en congé maternité royal.
Mais oui,
voilà, ça c'est fait.
J'ai le Graal du CDI.
J'ai le Graal du CDI et la tranquillité de me dire après mon congé maternité, j'ai du travail parce qu'on est quand même dans des régions très désertiques au niveau du travail social. Je n'y suis pas restée faute de trouver autre chose. J'ai vraiment trouvé ce que je recherchais là-bas. Et les 7 années sont passées finalement
vite.
Assez vite.
Ouais.
Mais contente aussi de passer à autre chose.
Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du public que tu as accompagné?
Je suis arrivée sur... Donc, c'est des enfants placés pour en protection... par rapport à des situations qui peuvent se passer chez eux, des difficultés des parents à être parents et besoin de protéger les enfants, donc placés sur des internats. Après, c'était une maison d'enfants assez particulière dans son fonctionnement, assez novatrice, je trouve, sur tout un tas de choses, mais déjà, c'est une maison d'enfants qui fermait les week-ends, ce qui, aujourd'hui, je n'ai jamais revu ça.
Non, moi, c'est la première fois que j'entends ça aussi.
c'est la particularité de la Savoie.
Ils en faisaient quoi, du
Donc,
coup,
les enfants, les week-ends, soit retournaient chez leurs parents, s'ils en avaient la possibilité, en accord avec le juge, soit la maison d'enfants avait tout un tas de familles d'accueil qui accueillaient les enfants sur les temps de week-end.
D'accord.
Pour que ces enfants-là puissent, au-delà de l'internat, passer du temps en famille, mais dans d'autres familles.
Okay.
Voilà, pour que ces enfants puissent avoir un peu cette double...
Un contexte familial qui les retrouve quand même...
L'internat d'un côté avec les éducateurs, le projet, le suivi, la rencontre aux familles, le soutien à la parentalité, tout ça. Et les petits week-ends en famille d'accueil où là, on souffle, on profite, on se fait cocooner. Et voilà, ils avaient tout un réseau de familles d'accueil. Ils embauchaient eux-mêmes leur famille d'accueil. Hein, ça passait pas par le conseil général ou quoi que ce soit comme habituellement. Là, ils avaient leur propre réseau. C'est vraiment spécifique.
Ah, mais c'est hyper novateur.
C'était très novateur. Alors, on avait un directeur qui était très difficile avec ses salariés, mais qui avait des idées très novatrices et qui avait le pouvoir de les... Quoi, le pouvoir comment dire, qui arrivait à présenter ses projets et à faire adhérer les politiques à ses projets. Et du coup, on a... Voilà. C'est pour ça aussi que ces 7 années sont passées assez vite, parce que j'ai eu énormément de chance dans cette MEX. Il y avait ce côté-là pour les enfants, mais aussi en tant que salarié. C'est un établissement qui avait une grosse volonté de toujours former ses salariés. Donc, on avait toujours des formations sur tout un tas de thématiques différentes. Et tu te nourris. Tu te nourris vraiment. Tu fais le pas de côté. Voilà. Et c'était pas du tout subi.
Mm-mm.
C'est pas, oh, encore une formation imposée.
Ouais.
Non, pas du tout.
Non,
c'était des choses très vivantes, très intéressantes. Bon, il y a toujours des thématiques qui t'intéressent plus que d'autres. Mais ce côté formateur, ce côté recherche aussi de l'excellence. Bon. Après, ça met une pression. Hein.
Mais, c'est sûr.
Et est-ce qu'on peut vraiment parler d'excellence dans ces domaines-là?
Non, mais en tout cas, une certaine qualité.
Une certaine qualité d'analyse, de réflexion. C'est là-bas que j'ai appris à réfléchir. Hein. Vraiment.
Okay.
C'est là-bas que j'ai appris à analyser correctement, à réfléchir. Je suis arrivée, je me trouvais bête comme un chou. vraiment. Je me trouvais très en difficulté sur des réunions où on se triturait l'esprit. Et j'ai trouvé ma place là-dedans. Et j'ai compris aussi l'intérêt de ces moments où il faut aussi des fois structurer l'esprit pour trouver la meilleure chose possible à offrir, la meilleure proposition à faire et à se dire ben voilà, finalement c'est là-bas que j'ai vraiment appris à analyser les choses, à les comprendre. Et donc du coup bah forcément génial.
Mais oui, du coup super expérience.
Bon après je rajoute à ça une équipe formidable, accueillante, qui m'a appris toutes les bases.
Sur les entretiens précédents que j'ai eus, l'importance de l'équipe revient énormément et t'en parles. C'est fou comme...
C'est vraiment là-bas que j'ai appris la dynamique d'équipe aussi, plus qu'à la PJJ. À la PJJ, on était très nombreux, ça tourne beaucoup. Bon, c'est le principe aussi de la PJJ, hein, ils sont mutés, donc c'est des fonctionnaires. Okay. La vraie équipe avec le grand E, la vraie dynamique d'équipe, la vraie réflexion en équipe, le vrai moment où tu t'appuies les uns sur les autres, où tu n'hésites pas à demander du relais à ton collègue parce que là, il faut que ça soit lui qui intervienne et que toi, tu lâches, etc. Ça, je l'ai découvert là-bas.
Et quelle situation tu retiens un petit peu de cette expérience pour illustrer ton travail?
Enfin, je retiens des enfants qui, au fil des années, vont de plus en plus mal.
Okay.
Des enfants, beaucoup d'enfants déracinés. Voilà, quelque chose qui m'a assez interpellée là-bas. Beaucoup d'enfants et de familles tout entières, parce que on avait un vrai, il y avait une vraie commande de travailler avec les parents, d'être sur de la coéducation, sur de l'accompagnement à la parentalité. Donc les parents faisaient partie intégrante du projet. Hein. C'était pas on retire les enfants et vous êtes les mauvais parents, vous attendez sagement dans votre coin de peut-être un jour récupérer vos enfants. C'est pas du tout ça, mais c'est une image qu'on peut s'en faire.
Bien sûr.
Là, il y avait un vrai travail de co-construction et beaucoup de familles qui venaient du nord de la France, qui venaient chercher un Eldorado à la montagne, clairement, en se disant le paysage est sympa, il y a du soleil, il y a les montagnes, la neige, ça attire. Il y a potentiellement du travail parce qu'il y a tout le travail saisonnier qui ne demande pas forcément des formations spécifiques, etc. Donc, cette idée d'Eldorado-là, et finalement, les gens ne trouvent pas ça parce que ben le travail saisonnier c'est en station, c'est en haut, c'est particulier, tout le monde ne loge pas, il y a certains saisonniers, moi j'ai vu des saisonniers vivre toute une saison dans des caravanes sur à la sortie des stations. Donc quand tu débarques avec tes 3-4 enfants, même un ou deux, c'est clairement pas possible. Donc des gens qui du coup restent en bas, atterrissent en vallée là où on était et sont en grande difficulté parce que en plus déracinés.
Ils n'ont pas de réseau autour d'eux.
Bah non. Mais non. Hein. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Et ça a été un point commun de plusieurs familles comme ça, qui débarquent. Alors, je dis du Nord, ça a été l'essentiel, mais il y a eu d'autres régions aussi. Et des gens qui débarquent comme ça du jour au lendemain avec leurs enfants, leurs valises, dont certains même sans point de chute.
Ok.
J'ai vu des familles débarquer sans même avoir un appartement. Hein, Et là, tu t'attends pas à ça.
D'accord, oui, effectivement.
Voilà, tu t'attends pas à ça. Après, ce qui était intéressant, c'est que quand même, petite ville, petit bassin, l'inclusion de ces enfants-là dans les écoles, les collèges, est très facilitée. Parce que finalement, on est connu. Cette mec s'est connue, repérée.
Oui.
Participe beaucoup, hein. Y a ça aussi, hein. Y a pas de secret. Participe beaucoup sur tout un tas d'événements et du coup la facilité en fait.
Tu trouves des partenaires avec qui c'est facile d'échanger,
facile d'échanger, un accueil plus chaleureux que frileux. Quand tu te présentes éducateur d'un enfant, il y a toujours des représentations et ça peut faire peur. Là, pas du tout.
Voilà. Ils vous connaissent.
Ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. Okay. Ils connaissent. Ils savent que c'est pas toujours simple. Mais en tout cas, t'es vite repéré et c'est beaucoup plus facilitant pour les enfants aussi.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Et aussi une volonté de mettre les enfants dans toutes les écoles d'Albertville.
Pas de viser une école.
Ouais, voilà. Donc, il y avait, je ne sais plus, 3 ou 4 écoles. Donc, les enfants étaient répartis sur les écoles. Donc, tous les enfants d'Albertville savaient qu'il y avait des enfants accompagnés par des éducateurs. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas une tare. Ce n'est pas une honte. Ça faisait partie de la vie là-bas. Voilà.
C'est sûr.
C'est ça. les fugues collectives, quand ils sont tous assis au bord de la route, devant le foyer, que personne ne veut rentrer se coucher, et que t'es là, bah oui, bien, comment on fait maintenant?
Que tu es seul ou à deux. Bon.
Que tu es seul ou à deux, que tu en remontes un, et, le temps que t'en remontes un, il y en a deux qui se sauvent, quoi. Bon, voilà.
C'est le chat et la souris, quoi.
C'est ça. Et du coup, tu peux vite péter les plombs là au milieu, et ça, c'est encore pire.
Ouais, c'est fatigant,
mais très fatigant. Ça a été très compliqué pendant mon deuxième congé maternité.
Ok.
Pendant mon deuxième congé maternité, on était une équipe essentiellement de femmes. Quatre ou cinq professionnelles femmes sur un groupe d'internat. À l'époque, je suis rentrée sur un groupe d'ados. Quoi, pré-ado, et les groupes ont évolué sur les années où je suis restée, c'est-à-dire que on a travaillé après sur des groupes transversaux pour accueillir les fratries.
Okay.
Parce qu'on s'est rendu compte que une famille de trois enfants, il y avait trois groupes d'internat, une famille de trois enfants, un enfant sur chaque groupe, un référent éducateur, trois équipes, trois éducateurs référents, ça devenait complètement insupportable.
Et pour les...
trois éducateurs qui viennent travailler la co-éducation avec les parents, quoi.
Ça faisait beaucoup.
Non, mais c'était n'importe quoi. Donc, on a fait des groupes transversaux. Alors, jusqu'à 15 ans. Après, c'est vrai qu'à partir de 15 ans, ils étaient sur un groupe d'ados, parce que là, on est sur d'autres, complètement d'autres enjeux, d'autres choses. Mais sur les 5-14, on va dire, groupe transversal, où on accueillait des fratries. J'ai eu des grosses fratries, même.
Okay.
Mais du coup, voilà. Là, intéressant.
Ouais.
Ça prend encore plus de sens d'accompagner les familles.
Oui, bien sûr.
Là, voilà. Mais... Pourquoi j'en venais à ça? Ah oui, pendant mon deuxième congé maternité, quatre ou cinq femmes, on était aux prémices du groupe transversal, pas tout à fait encore, mais aux prémices. Ouais. On commençait à y réfléchir. Et pendant que j'étais tranquillement chez moi, mes collègues ont vécu de plein fouet la violence des enfants, la violence physique. Ça a été visiblement... Okay. Très long et très compliqué à gérer, au point que quand je suis revenue de congé maternité, donc c'est déjà pas simple de revenir,
non, c'est sûr.
Voilà, de laisser son petit bout de chou à la nounou, etc., de reprendre le chemin du travail en internat, donc avec des horaires particulières. Et là, je reviens une semaine après, trois de mes collègues démissionnent.
Oh. Okay.
Et la dernière se met en arrêt. Et là, je me retrouve
seule,
confrontée à ça. De plein fouet. Alors, seule, mais c'est surtout...
Il y avait encore des collègues, du coup?
Non, il n'y avait plus de collègues.
Ah ouais, d'accord.
Non, je suis vraiment restée toute seule sur l'équipe.
Ouais, c'est ce que je comptais, du coup, et je me dis, mais...
Je suis restée toute seule sur l'équipe, le jour au lendemain. Mais c'est pas tant ça qui m'a percutée. Ça, je m'en suis rendue compte après. C'est surtout que je me suis pris de plein fouet ça. Moi, je revenais un peu sur mon petit nuage,
ouais, bien sûr.
Avec encore chamboulé d'émotions et d'hormones. Et là, je vois tout le monde partir. Et ça a été très violent pour moi.
C'est sûr.
En fait, c'est surtout ça. Ça a été. Alors, je comprends. Hein. Voilà, j'ai compris leur démarche, j'ai compris le pourquoi du comment. Certaines pour se protéger, d'autres pour dire qu'elles voulaient pas continuer de travailler comme ça. Mais moi, ça a été extrêmement violent pour moi. De mon petit point de vue égoïste qui revient là, qui est parti pendant 6 mois, qui revient et là, pof. Donc voilà, fermeture de groupe, carrément, hein, bah, oui, je ne peux pas bosser toute seule.
Non,
et puis embaucher des gens à la va-vite ne sert à rien. On est quand même sur des régions où ce n'est pas simple de recruter parce qu'on est isolé. Et puis ça sert quoi? Voilà, un groupe qui allait très mal, qui a éclaté, c'est pas pour remettre des remplaçants tout de suite, tout autant de remplaçants qui. Ça va reproduire et ça va créer encore plus d'insécurité auprès des enfants. Donc, redoubler de violence, de tout ça. Où là, je me suis retrouvée dans un rôle complètement différent de tout ce que j'avais connu jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire où j'ai travaillé avec les cadres, chef de service, psychologue, directeur, pendant plusieurs semaines.
Okay.
Où j'ai travaillé de journée avec eux à recréer tous les projets, repenser les projets, repenser les parcours des enfants, repenser tout un tas de choses. Déjà aussi, penser, parce que qui dit fermeture de groupe, on les met où, les enfants?
Bien sûr, il faut pouvoir les...
Donc, penser à des lieux plus intéressants pour certains que pour d'autres, etc. Tout en maintenant les scolarités, quoi, bon, tous les enjeux du quotidien. Et là, je me suis retrouvée dans un exercice complètement différent on part de ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, comment on pense les choses, comment on se projette, c'est bien de les penser, mais comment on arrive à les mettre en œuvre, etc. Et là, ça a été aussi, tout aussi formateur. Okay. Mais carrément sur un autre domaine.
Mais oui, mais tu t'es posée
là une prise de recul contrainte et forcée après 6 mois d'absence, donc double recul, hein. Et n'ayant pas vécu toute la période hyper complexe de mes collègues, j'étais vraiment dans une démarche de pensée, de projet, et pas j'étais pas là avec mes blessures, mon expérience, mes traumatismes, ma colère, comme mes collègues auraient pu être. Mais quand même. Un petit peu difficile d'être toute seule là au milieu, voilà. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup plu, ce travail-là.
Ok.
Bon, ça arrivait comme ça, hein, mais, mais après coup, je me rends compte que ça m'a beaucoup plu.
D'accord.
Et on en est ressorti tous très grandis. Aussi les cadres et le directeur qui ont eux aussi ont pu se rendre compte des dysfonctionnements institutionnels et de pourquoi. Parce qu'on est bien d'accord, hein, c'est pas qu'à cause d'une équipe, qu'à cause des professionnels, il y a aussi toute une dynamique institutionnelle qui fait que des fois on en arrive à des événements comme ça. Et du coup, ben voilà, tout le monde a pris sa part du truc et voilà. Génial.
Bon, donc ce qui t'a plu là, à ce moment-là, c'est de participer à la réécriture d'un projet et de mettre toi le sens un petit peu de ce que t'avais pu évaluer sur le terrain et qu'à un moment donné, on t'écoute sur
ça
aussi. Tout à fait.
Ouais, la quête de sens, elle arrive vraiment à ce moment-là. Jusqu'à présent, je travaillais, j'apprenais mon travail. Je pense qu'on continue d'apprendre son travail tout au long de sa vie, j'apprenais, je reproduisais, j'avais à cœur le projet des enfants, mais la quête du sens un peu plus large, elle est vraiment venue à ce moment-là.
Okay.
Voilà. Et à partir de ce moment-là, je suis vraiment devenue porteuse de quelque chose. Tu vois, en tant qu'ancienne, en tant que participante de la réécriture, seule participante de la nouvelle équipe de la réécriture, tout ça. Donc voilà, je me suis vraiment sentie investie de quelque chose, porteuse de quelque chose. Et je pense que ça a fait émerger certaines envies qui sont ressorties plus tard. Mais en tout cas, je pense qu'elles ont commencé à émerger ici.
Ok. Voilà. À quel moment tu quittes la MEX, du coup ?
À quel moment je quitte la MEX ? C'était en 2012, suite à la mutation de mon conjoint. Et là, on part sur Grenoble.
Ok.
Pendant 2 ans.
Ok. Voilà.
Je vous fais faire un petit peu le tour de France, le tour du France du social, où je reviens à Dijon à la fin. Retour aux sources. En quittant la Savoie, j'étais très contente à titre personnel de quitter la Savoie et de retourner en ville. Ce que je retiens de la Savoie, surtout, c'est qu'on passe sa vie assise dans sa voiture. Voilà, on fait beaucoup de kilomètres en voiture pour tout un tas de choses, hein, que ce soit le travail ou perso. Et du coup, contente de retrouver la ville, la proximité des choses et la facilité.
Mais voilà. Oui, tu as 2 enfants.
J'ai
coup,
2 enfants à l'époque.
Tu pars à Grenoble avec deux enfants.
Je pars à Grenoble avec mes 2 enfants et j'atterris dans un quartier tout neuf au bord du centre-ville avec l'école sur le trottoir d'en face. Et là, c'est royal.
Ah oui,
voilà,
le confort.
Je sors de 7 ans de désert géographique où à 6h du matin, j'emmène mes enfants chez la nounou en combinaison de ski où je suis obligée de garer la voiture au bout du village parce qu'il y a trop de neige pour arriver jusqu'à chez elle. Et j'ai 2 enfants, donc il y en a un qui est obligé de marcher, qui marche avec de la neige jusqu'aux genoux, à 6h du mat pour aller se recoucher chez la nounou. Et je me dis, qu'est-ce que je fais vivre à mes enfants pour aller m'occuper des enfants des autres. Ça, c'est une vraie question.
Ouais, c'est une vraie question.
Et ça a été le dernier hiver en Savoie. Et c'est vraiment là où je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire vivre à mes enfants ? Il faut qu'on change, il faut qu'on fasse différemment. Il ne faut pas forcément qu'on fasse autre chose, mais il faut qu'on fasse différemment. Et Grenoble est arrivé vraiment, ça a été l'illumination.
Point nommé.
Voilà, à point nommé. Bon, 7 ans dans la même institution, moi je suis partie prenante.
C'est déjà bien.
Hors de question de passer toute ma vie au même endroit. Hein. Je trouve que ça fait beaucoup de mal aux professionnels, aux personnes accueillies, peu importe le public. Voilà, après c'est ma vision des choses, mais je trouve que ça met beaucoup trop de gens en souffrance quand on reste trop longtemps au même endroit, faire toute ma carrière au même endroit. Et en plus, c'est se fermer des portes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. J'ai tellement cette envie de découvrir tout un tas de domaines que pour moi, rester au même endroit, c'est se fermer des portes.
Mais oui. À ce moment-là, je me demande si tu te questionnes sur faire autre chose ou pas.
Absolument pas.
Non, c'est toujours.
Non, je suis toujours, à fond dans mon truc.
Ouais. Ok.
Et je postule à la PJJ. Et ben voilà, expérience faite que je suis prise à la PJJ assez rapidement.
Sur quelle. Sur quelle structure ?
Clairement, même type de structure qu'à Dijon.
Ok.
Voilà, structure ouverte. Alors, ça a changé de nom entre-temps. Mm-hmm. C'est principe des politiques. Mais même type de structure. Par contre, public bien différent de ce que j'ai connu à Dijon. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur de la vraie délinquance. On est sur des grandes villes, hein, donc Grenoble, des vrais problèmes de délinquance, des gros quartiers avec beaucoup de choses qui s'y passent, et beaucoup d'enfants et de jeunes qui viennent de la région lyonnaise en fait et qui sont envoyés au foyer PJJ de Grenoble pour s'éloigner un petit peu.
D'accord.
Voilà. Donc bon, des bons clients aussi, hein, des Lyonnais, des bons clients. Du coup, je me suis rendu compte que les jeunes que j'avais connus à Dijon, c'était des petits chatons. Voilà. Et que finalement, c'était pas plus mal vu que c'était ma première expérience à Dijon. Donc, donc là, je me retrouve confrontée. C'est assez particulier parce que du coup, c'est quelque chose que je connais. Lieu différent, équipe différente, mais fonctionnement que je connais, que j'ai la sensation de maîtriser. Et des jeunes complètement différents.
Ah oui.
Et ouais. Et là, on est sur de la vraie délinquance, sur des jeunes qui sont pas du tout dans des démarches de scolarité, de formation professionnelle. En plus, là, j'ai beaucoup de jeunes qui sont là en attente d'incarcération ou en sortie d'incarcération. Donc, du coup, c'est quand même un contexte différent.
Oui, bien sûr.
On n'est pas sur de l'alternative à l'incarcération ou sur la chance. D'être sur de l'éducatif plutôt que sur du répressif. Là on est sur de l'attente de la sortie de CER, CEF, centre éducatif renforcé, centre éducatif fermé, qui sont des alternatives à la prison mais quand même très très répressives, hein, voilà, où les jeunes où c'est fermé à clé, etc. Là, on est sur un foyer ouvert, mais qui sert un peu de transit.
Ok.
Donc là, je me retrouve confrontée à des jeunes où tu rames, parce que déjà, des fois, il reste 2 semaines, des fois, il reste 2 mois. Moi, je reste un peu plus d'1 an. En 1 an, j'ai vu passer un nombre de jeunes mais impressionnant, okay. Alors qu'à Dijon...
Ouais, tu avais le temps de créer
du lien, tu avais le temps de comprendre, de voilà, d'échanger. Là, tout va vite, tout est vécu émotionnellement autant par les adultes que par les enfants, puissance 10 000, tout est sous pression, tout est exacerbé dans ce lieu-là, Donc grosse expérience. C'est là où j'ai appris à ramer, à aller chercher l'autre,
à essayer de faire adhérer.
Ouais, aller chercher l'adhésion dans le sens où t'as des jeunes qui sont dans le rien toute la journée devant un bâtiment à fumer des clopes, et toi t'es là au milieu, qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu restes avec eux, tu les regardes faire, merci, le temps est long, on s'éloigne un peu de ce qu'on est censé faire avec eux. Bon, voilà, pas simple. Et là, on est sur les quartiers mineurs. Hein. Ouais. On est, quoi, faut bien savoir qu'on est sur les quartiers mineurs avec des études PJJ, des visites, etc. Mais la représentation de la prison, la peur d'y aller, le traumatisme d'en sortir, vraiment.
Ouais.
Moi, j'ai vu des enfants traumatisés. Hein. Après, ça arrive dans leur vie à un moment donné. C'est une réponse.
Ouais.
C'est une réponse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas envoyer ces jeunes-là en prison. Je dis juste que ça fait partie des réponses possibles. Ils ne se rendent pas compte tous de la gravité de ce qu'ils ont pu faire. Et là, on est... c'est pareil. Hein. On est sur d'autres types d'autres profils hein, que j'ai connus à Dijon. Là, on est sur des agressions à coups de couteau, des cambriolages à répétition, des vols avec agression, des choses beaucoup plus graves.
Oui, bien sûr.
Sans parler des agressions sexuelles, qui ça fait partie aussi. Alors ça, c'est encore un peu particulier parce que c'est aussi des jeunes dont tu... Un peu comme en prison, hein, que tu dois protéger du reste du groupe. Les agresseurs, les pointeurs.
Les pointeurs.
Et il y a un peu ce souci de protection de jeunes dont toi-même, tu n'es pas à l'aise avec ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas simple. Ouais. Tu n'as pas envie de les donner en pâture, mais ce n'est pas simple.
Ouais.
Ce n'est pas simple. Comment toi-même, tu te retrouves dans ton accompagnement? Comment toi-même, tu penses les choses, tu fais le pas de côté et voilà, tu composes ton travail.
Puis comment t'accueilles l'histoire?
Après, je parle des agressions sexuelles, mais aussi, le petit jeune qui roue de coups une petite mamie pour lui voler son sac à main. C'est pas mieux, hein.
Tu dis,
ok, tu pouvais pas juste lui prendre son sac, quoi.
Ouais.
Quoi.
Ou juste rien faire.
Juste ne rien faire, on est d'accord. Mais,
non, mais là, voilà, est-ce que t'étais obligé d'aller dans cet excès-là?
Exactement.
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'on est obligé de. Et toi, ce que tu cautionnes de leurs actes, tu sais ce qu'ils ont fait quand ils arrivent. Mais bon, voilà. Mm. T'es là à un moment de leur vie pour les accompagner. Ce qui ressort, beaucoup de violence.
Oui.
Beaucoup, beaucoup de violence, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de moments de flip.
Est-ce que à ce moment-là, c'est difficile de couper quand tu rentres chez toi, par exemple?
Non, ça va.
Non, t'arrives à mettre à bonne distance.
Ça va. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours réussi à faire.
Okay.
C'est quelque chose que j'ai bien mis en pratique à Albertville et grâce à mes 20-30 kilomètres de chemin à faire pour rentrer chez moi, ou quand je passais des soirées très compliquées sur Albertville, c'était une espèce de mini rocade où voilà, c'était toujours tout droit, j'étais toute seule sur cette route-là à 23h, 22h, 23h, et où je mettais musique à fond, fenêtre ouverte et j'hurlais les chansons d'Amy Winehouse. No. Voilà. C'est pas du tout caricature, c'est vraiment ça. Et j'arrivais chez moi, vidée. Voilà, et c'est quelque chose que j'ai toujours continué de faire.
Okay.
Si vraiment je passe des soirées ou des journées compliquées, le trajet retour
est important.
Ouais, est très important et me fait toujours du bien.
Du coup, au bout des 2 ans à Grenoble, vous devez repartir.
Au bout des 2 ans à Grenoble, là, il y a des choix professionnels qui sont faits du côté de mon conjoint qui quitte l'armée, qui arrête.
Et donc,
nous sommes revenus sur Dijon, retour aux sources. Et là, j'ai été confrontée à quelque chose que je ne connaissais pas, c'est-à-dire la recherche d'emploi. C'est vrai. Hein.
Ouais, ça faisait combien de temps que tu étais diplômée?
Eh bien, je suis revenue sur Dijon en 2000. Non, ça faisait déjà 11 ans.
Tu trouves une évolution dans la recherche d'emploi, du coup?
Mais complètement. Je suis partie de Dijon. Moi, j'étais diplômée en 2004. Sans schématiser, mais tout le monde trouvait du travail tout de suite.
Dans ta promo, en tout cas, par exemple.
Voilà.
Ceux qui sortaient.
Tous les gens avec qui j'ai gardé contact de ma promo ont trouvé des CDI, mais dans le premier trimestre, quoi. Voilà. Tu fais un petit remplacement histoire qu'on te teste et après, bam. Et je suis revenue sans me poser la question. Tu vois, en me disant, ok, à Dijon, je vais trouver facilement. Parce que, il y a 10 ans. Il y a 10 ans qui se sont passés.
Et t'as pas trouvé facilement.
Il y a des politiques sociales qui sont passées par là. Il y a des choses qui ont évolué, tout un tas de choses. Et là, je me retrouve confrontée à la recherche d'emploi. Ce que j'ai pas, voilà, parce qu'à Grenoble, à Albertville, à Grenoble, j'ai été embauchée très rapidement. Et ça a été un peu difficile parce que j'avais l'impression d'arriver avec un bagage intéressant. Et rapidement, je suis arrivée. Alors là, on change carrément de domaine. Hein, on fait un pont. Je suis arrivée dans l'autisme.
Ok.
Voilà. IME autisme, deux journées, hein, sans hébergement.
Ok. Ça devait être changé, ça aussi.
Rien.
Du coup.
Voilà. Et on recommence parce que j'aime bien tout recommencer à chaque fois. On recommence. Nouvelle étape, ouais. Nouveau public. Et là, on est carrément sur des nouvelles pratiques.
Ok.
Voilà, parce que autant en protection de l'enfance PJJ, il y a des choses, tu regroupes, tu te sers de ton expérience et tout ça. Là, tu déconstruis tout. Tout ce que tu fais depuis 10 ans, tu déconstruis. Hormis tes capacités d'analyse, de voilà. Hein, je parle au quotidien avec, avec les jeunes.
C'est pas le même public, quoi. Juste,
ah ben non, mais c'est pas ça. Le même public. Puis là, on est quand même sur des difficultés, quoi, sur un autre geste. C'est-à-dire que l'autisme. La communication. L'essentiel du travail d'éducateur passe par la communication.
Et comment on fait quand ça passe pas par le langage, du coup?
Eh bien, t'apprends à faire autrement. Tout à fait. T'apprends à faire autrement, t'apprends d'autres langages. T'apprends les pictos, les macatons, les ABA, t'apprends tout un tas de choses, tout un tas de techniques spécifiques. Après, on se refait aussi sur la vague, hein, autisme, il y avait les plans autisme et tout ça, okay. À l'époque. Donc, aussi envie de découvrir, parce que c'est vrai que c'était, voilà, c'était quelque chose dont j'entendais beaucoup parler. Comme tous ces domaines-là, tu sais ce que c'est sans savoir ce que c'est.
C'est vrai, si tu l'as pas vécu.
Non.
C'est difficile.
C'est très difficile. Et là, je reste pour une bonne année.
Ok.
Donc déjà sur le remplacement de congé mat, puis après sur tout un tas de remplacements différents. J'enchaîne les remplacements.
Ok.
Ce qui en soi est pas très... C'est pas satisfaisant.
C'est pas confortable.
C'est pas confortable parce que j'ai vraiment envie de m'inscrire quelque part, de m'investir quelque part.
T'as continué à te nourrir professionnellement, rencontrer, enfin apprendre, et c'est ce que tu disais, mais ça guide beaucoup, beaucoup de personnes dans le travail social, c'est qu'on peut tellement aller sur plein de champs que ben on apprendra toujours et on sera toujours stimulé. Donc
moi je suis vraiment partie prenante de ça. Il faut continuer de se nourrir. Bon, voilà. C'est extrêmement important, et malgré tout, et dans chaque expérience, je me resserre de tout ce que j'ai appris, de toutes mes expériences. Okay. L'autisme, alors c'est un monde à part, mais je m'en sers aujourd'hui, dans mon emploi actuel. Les pictos, les machins, j'ai des enfants qui, actuellement, qui ont des difficultés à accéder à la lecture, voilà. Mais, allez, hop, on passe par des petits pictos, ça fait du bien, je maîtrise, je sais faire. Donc, pourquoi pas?
C'est une expérience que tu mets au profit aujourd'hui.
Tout à fait. Tout à fait. Il faut savoir juste articuler le truc pour que ça... Je dis pas, c'est bon, j'ai fait de l'autisme, donc je mets des pictos partout parce qu'il faut... Non, c'est pas ça. C'est vraiment, qu'est-ce que moi, je sais faire qui pourrait apporter un plus aux jeunes?
Ok.
Ben ça, pourquoi pas?
Donc là, après l'IME, tu arrives dans la structure où tu es aujourd'hui?
Oui, après un an à l'IME, là, dans le cadre autisme, je suis quand même en recherche de CDI. Et là, j'arrive à l'ITEP, donc Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique.
Merci pour la traduction.
Voilà, donc un ITEP, il y en a à peu près au moins un par département.
Ok.
Et l'intérêt de l'ITEP, ce que je suis venue chercher là, comme l'intitulé l'indique, thérapeutique, éducatif et pédagogique. C'est-à-dire qu'on a une façon de travailler tripartite.
Ok.
Voilà. Où là encore, c'est un autre exercice. On est sur la lignée de ce que je sais faire, de ce que je connais, des jeunes, des situations difficiles. Une bonne partie est issue de la protection de l'enfance. Voilà. J'arrive sur un groupe d'internat. Donc, bon, voilà, des choses connues. Mais... une façon de penser le travail complètement différente.
Ok.
Voilà. Des enfants qui, sur le papier, les textes de loi disent... les anciens textes de loi, troubles du comportement. Les nouveaux, difficultés psychologiques entraînant des troubles du comportement. Il faut aussi se dire qu'on a beaucoup d'enfants qui relèvent de la pédopsychiatrie, qui sont en attente de place d'hôpital de jour. voire qui cumule ITEP hôpital de jour, parce que l'hôpital de jour, ça représente 2 heures par semaine. Okay. Voilà. Donc, des enfants qui sont freinés, empêchés dans leurs apprentissages scolaires, essentiellement. Ça émerge souvent par la scolarité, hein, de toute façon. Et un établissement qui a les ressources nécessaires dans le sens thérapeutique, éducatif et pédagogique, mm-hmm. donc qui a des enseignants spécialisés, okay. qui a un pôle thérapeutique, qui a des éducateurs techniques, tout un tas de choses, pour pouvoir monter le projet de ces jeunes, accompagner ces jeunes et avancer au plus près des besoins. Et moi, ce qui m'intéressait de venir travailler à l'ITEP, c'est le côté très individualisé et personnalisé. Voilà. Je pense l'accompagnement comme le jeune en a besoin et pas nous sommes une institution qui fait ceci, cela, qui propose telle et telle chose. Donc, si le jeune vient chez nous, il doit faire telle ou telle chose.
Tu Après, sens c'est qu'il y a idyllique, hein, ce que je suis en train de dire. D'accord? Ce que je suis venue chercher.
Ce que tu es venue chercher, tu vas nous dire si c'est ce que tu constates. Mais en tout cas, à la base, tu trouves qu'il y a un respect plutôt important des besoins et que vous avez les moyens de pouvoir adapter un peu plus qu'ailleurs?
Oui. Okay. Oui, quand même, je le constate assez vite. Okay. Après, c'est quelque chose que j'ai partagé tout de suite. Hein. Moi, je leur ai dit, voilà, je suis venue chercher ça. Je suis venue chercher une autre façon de penser, un peu plus, voilà, qui sort un peu juste du cadre éducatif.
Okay.
Une autre articulation. Et puis, ben voilà, on a la chance d'avoir tout ça dans cet établissement. Donc, comment on met en œuvre ça dans cet établissement. Je suis venue chercher ça, je l'ai constaté très vite. Bon, après, tu vois aussi très vite les manques. Hein.
Ok.
Voilà.
Les profils de jeunes que tu accompagnes, ils ont quel âge? Quels sont les troubles repérés? Enfin, j'imagine qu'en plus, tu vas nous dire l'âge déjà. Et après, peut-être.
Alors l'âge, je tombe sur un groupe d'internat... plutôt jeune, 8-12.
Ok, donc c'est voilà. Plutôt jeune, c'est là où je voulais en venir, pour poser un diagnostic, que les troubles y soient nommés. Donc, est-ce que tu navigues un peu à vue sur les troubles des enfants ou non, il y a déjà des choses qui
sont... Ah bah là, je découvre complètement. C'est-à-dire que ce que j'ai pu connaître, constater tout au long de mon expérience, parce que quand j'étais en MEX, on a monté des dossiers pour des jeunes, pour qu'ils puissent aller en accompagnement ITEP. Mais je voyais ça de loin, tu vois, l'ITEP, un peu le côté... un peu, je voyais quand même beaucoup le côté médico-social, quoi, voilà. Et j'avais aussi des jeunes qui étaient en ITEP la semaine que j'accompagnais en MEX. Bref, mais de loin. Okay. C'est un peu, bon, tiens, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils sont un peu particuliers, un peu spécialisés dans leur truc. Ça a l'air de fonctionner, hein. On leur envoie les jeunes parce que... on est en grande difficulté avec eux et les jeunes sont en grande difficulté là où ils en sont. Mais j'avais pas perçu vraiment les troubles, ce qu'on peut appeler okay. les troubles du comportement. Hein. Et surtout toutes les manifestations de troubles, par quoi ça peut passer et tout ça. Et j'ai tout appris à t'apprends à faire des liens. T'apprends à articuler, désarticuler, tu t'interroges beaucoup. Hein. Tu t'interroges beaucoup, tu cherches des informations. L'observation et le travail d'équipe, mais alors d'équipe pluridisciplinaire, voire même les éducateurs des autres groupes, quoi. Ouais. Je veux dire, vraiment toute l'équipe institutionnelle fait que tu t'appuies des observations des uns et des autres. Bah, okay. Tiens, moi, dans tel cadre, j'ai constaté ça pour tel enfant.
Il y a un réel partage,
ça.
Quoi.
Il réagit comme ça. Et voilà. Et toi-même, tu décodes petit à petit l'enfant, ce qu'il est, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qui lui convient, ce dont il a besoin, quoi. Ce dont tu crois qu'il a besoin, bien sûr. Les éléments de vie, forcément... parce qu'il faut un peu d'éléments de compréhension aussi de qu'est-ce qui fait qu'il en est arrivé là, de son histoire de vie, tout ça. Et t'apprends à tisser la toile, en fait.
Ok.
Voilà, et tous ensemble. Bon, faut pas oublier que l'éducateur référent, c'est quand même celui qui est porteur du projet. Donc, en termes de tissage de toile, même si on la tisse tous ensemble, c'est toi qui quand même regroupe un peu tout et qui fait un peu le montage final. Du coup, ben voilà. Il y a toute cette articulation-là qui est nouvelle. Tous les troubles. Alors, tout le côté... voilà. Tout le domaine du champ de la pédopsychiatrie. C'est des choses qui sont nouvelles. C'est des choses qui m'attirent, qui sont nouvelles. Où je me rends compte que là, pour le coup, ben, je suis pas bien au clair. Il y a des manques. Donc, j'ai la chance d'être sur une équipe qui est très installée. Okay. Alors là, pour le coup, très, très installée, qui est là depuis très longtemps, même si je suis pas très raccord avec ça, mais voilà. Mais des gens qui sont très accueillants, qui connaissent leur métier et qui sont dans l'échange et le partage.
Ouais, donc, tu te sens soutenue, du coup.
Tu te sens soutenue, tu comprends, tu apprends. Il y a beaucoup de... les premiers temps, j'ai passé beaucoup de temps à dire « Ah oui, ok ».
Ah, vous m'aidez à y voir plus clair. Ah, je décrypte. Ah, j'analyse avec vous. Mais oui, voilà. Mais quand on découvre un public, mais c'est hyper dur parce que, enfin, je trouve que tu le racontes très bien. Tu as l'expérience, tu as 11 ans d'expérience quand tu débarques là-bas, voire plus même. Mmh. Et finalement, tu te retrouves encore en posture d'apprendre et t'aimes ça.
Et j'aime ça.
Ouais.
Et je considère que si j'ai la sensation d'avoir moins de choses à apprendre, pas plus rien à apprendre, mais d'avoir moins de choses à apprendre, c'est là le moment où je commence à me dire qu'il est temps que je passe à autre chose.
Okay. Je ne sais pas si c'est un message pour ton employeur.
C'est tellement un message.
Est-ce que ça fait combien de temps que tu y es?
Là, ça fait 6 ans que je suis allée.
D'accord. Ok, donc oui, ça commence.
Et entrecoupé. Alors, la première année, une fausse première année, parce que je suis arrivée à l'ITEP et quelques mois plus tard, je suis partie en troisième congé maternité. Je rassure tout le monde, ça sera le dernier.
Suite et fin.
Suite et fin des congés maternité. Voilà, troisième congé maternité. Ça fait 6 ans quand même. 6 ans sur le même groupe. Donc là, je commence à saturer un peu, je t'avoue. Même si les jeunes changent.
Mais oui, oui. Mais
Même si l'équipe a complètement changé.
Ok.
J'ai l'impression d'être un dinosaure. voilà.
Est-ce que pour illustrer un petit peu, tu as une situation qui peut illustrer un peu les profils, les actes que vous menez, les actions que vous menez en ITEP, justement. Moi, c'est un lieu que je connais pas trop. J'accueille sur mon service des jeunes qui sont passés par l'ITEP, donc je vois un peu le profil. Ouais, mais tu vois, je sais pas ce que finalement, ce que vous faites, comment vous... Enfin, ouais, si tu as une situation un peu...
Écoute, je vais te décrire un peu, puis on verra s'il y a une situation qui émerge, parce que là, comme ça, pas spécialement, j'aurais peur que ça soit... Le problème des ITEP, c'est que c'est très caricaturé.
Oui.
C'est que c'est très associé à troubles du comportement, violence, crise clastique. Alors, une crise clastique, crise de nerfs, de décharge, de tout ça, incontrôlable. Crise clastique et contention. Voilà, c'est les choses qui sont très associées aux ITEP. Donc, des gamins qui hurlent, qui frappent, qu'on tient au sol.
Okay.
Sauf que ça fait partie du truc, c'est pas l'essentiel du travail. Pour moi, le plus important à retenir des ITEP, c'est vraiment cet accompagnement personnalisé.
Okay.
La possibilité de cet accompagnement personnalisé et l'articulation qu'on peut créer autour des enfants en fonction de leurs besoins et de leur évolution. On a quand même des enfants. Là, j'ai un groupe en ce moment de 10 enfants. Il y a 10 profils différents, 10 parcours différents. Voilà. On a aussi des enfants qui ont des troubles du comportement, qui ont développé des troubles du comportement plutôt par rapport à leur histoire de vie, la sphère familiale, des difficultés éducatives à la maison, des carences, ce genre de choses. Et l'expression de tout ça, ce sont des troubles du comportement. On a différemment des enfants qui ont des vraies pathologies psychologiques, voire psychiatriques.
Okay.
Et du coup, ces enfants-là sont ensemble et pour autant, tu les appréhendes pas du tout de la même façon. Il y a des enfants vers qui tu vas être essentiellement dans l'éducatif. Le cadre fait partie intégrante des ITEP. Un ITEP n'est rien sans son cadre éducatif. Voilà, les règles, le cadre,
le rythme, la ritualisation,
les rituels, tout un tas de choses comme ça, où on est sur de l'éducatif pur. Et il y a des autres enfants où tu vas être sur que du contournement. Tu vas être essentiellement là-dedans.
Ok.
Que du contournement pour pouvoir amener l'enfant à un moment donné à respecter une petite règle, un petit machin, en comprendre le sens, bien sûr. Hein. Okay. Pas, tu ne crées pas des moutons.
Non.
Mais,
tu t'adaptes en permanence, du coup.
Tu t'adaptes en permanence. Et plus tu les connais, plus tu sais t'adapter, plus tu connais l'enfant, hein, je ne dis pas oui, les connais, les... je ne les catégorise pas. Plus tu connais l'enfant, plus tu vas savoir déjà anticiper, déceler les signes. Ça, c'est très important. Pour désamorcer ce qui va suivre. Pour lui éviter, lui apprendre à lui de ne pas passer par la crise classique pour exprimer ses émotions et ses ressentis. Donc, plus tu vas le connaître, plus tu vas pouvoir anticiper pour l'accompagner dans le contournement. Sauf qu'au début, ben, il n'y a que toi qui contourne. Hein. Donc, c'est lourd. C'est très, très lourd. C'est lourd physiquement, c'est... Ben, ouais, vraiment, c'est lourd physiquement. C'est lourd psychologiquement, parce que c'est, voilà, c'est prenant, hein, c'est compliqué. L'enfant, il te donne ce qu'il peut, et toi, tu te débrouilles avec. Mais c'est sûr qu'on est, voilà, on est sur des enfants qui vivent ensemble, qui ont des pathologies, des expériences différentes, et c'est difficile d'être tous ensemble.
Je trouve que dans ce que tu dis, et j'ai envie de te remercier, parce que tu as rappelé là que tu parlais d'un enfant. D'un individu et c'était une personne à titre individuel que t'accompagnes dans un collectif, mais du coup tu tiens compte de ben lui, ses troubles, mais t'as dit aussi ses capacités et tu l'aides à traduire ses émotions pour éviter effectivement qu'il y ait des actes posés, qu'il y ait un peu de débordement, etc. Et tu dis énormément que t'apprends à le connaître.
Tout à fait.
Et je trouve que ça, c'est vraiment important qu'on le souligne.
Alors, c'est quelque chose que j'évoque beaucoup avec les stagiaires que j'accompagne à l'ITEP. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours suivi des stagiaires. J'ai fait des formations de tuteurs référents, tout un tas de choses, avec les différents IRTES et RIS de mes lieux de vie. Mais aussi, c'est quelque chose que je dis tout le temps, le lien. Créer du lien. Ça paraît bête et méchant. Ça paraît première année de cours à l'IRTES. À l'ITEP, on n'est rien sans le lien qu'on crée avec les enfants. Et quand je parle de lien, je parle vraiment de compréhension de l'enfant, de compréhension de son parcours, de ses troubles, parce que c'est le mot qu'on emploie, voilà, de ce qu'il sait faire, de ses capacités, de là où il est empêché. Faut savoir quand même qu'on a beaucoup d'enfants qui sont en grande difficulté scolaire. Et alors, dans les textes de loi, hein, un enfant d'ITEP ne peut pas être déficient intellectuel. D'accord. Donc, c'est soit tu relèves du domaine IME, et en quel cas, il n'y a pas de compatibilité ITEP. Par contre, on a énormément d'enfants, et nous, on appelle ça comme ça, déficitaires. C'est-à-dire qu'ils sont empêchés. J'ai des enfants de 10 ans qui savent à peine lire, mais parce que psychologiquement, ils sont empêchés dans leur mise en travail, dans tout un tas de choses. Et à nous, alors là, c'est sur le scolaire, à nous, avec les enseignants, soit enseignants spécialisés qui interviennent à l'ITEP, soit avec les enseignants partenaires dans les écoles, les collèges, etc., de mettre ça au travail, de pouvoir faire avancer et de pouvoir aussi lever les réticences des enfants. Parce qu'il y a toujours une explication derrière. Oui, bien sûr. Et tu parlais de situation, voilà, moi, mes petites victoires, c'est quand on a des enfants... Moi, j'ai eu des enfants qui, en CP, fuguaient de l'école et frappaient leur maîtresse, quoi. Donc, en CP, on est sur des enfants de 6-7 ans.
Oui.
Voilà, on a cette représentation de cette violence des enfants d'ITEP de 14, 15 ans, 16 ans, mais c'est pas le cas. On a des petits qui sont extrêmement... en souffrance extrêmement, en difficulté. Et quand on me dit, bah, tiens, on accueille un petit, il fugue de son école en CP, il se retrouve tout seul dans la rue pour fuir les apprentissages. Tu te dis, non mais attends,
oui. Voilà.
c'est quoi ça, quoi, comment on en arrive là, quoi.
Et toi, ta victoire,
et
du coup,
la
c'est quoi
petite victoire, c'est de le mettre, c'est de d'avancer, hein. Tu t'avances, tu rames. Et puis au bout d'un petit moment, bah, il finit 2 heures à l'école du village. Alors bien sûr sur les sciences, hein, là où on écrit le moins.
Ouais.
Là, on passe pas par l'écrit, on est sur de la manipulation, mais ça, c'est projeter, travailler à l'ITEP avec l'école partenaire. 2 petites heures que après, ben, tu rajoutes le temps de récréation pour la sociabilisation. Et puis, ben, du coup, on va passer, on va rajouter les maths qui ont lieu juste avant la récré, parce que les maths, on est aussi dans la manipulation, etc. Et petit à petit, comme ça, ben, t'avances au rythme de l'enfant. Et des fois, il te dit, oh là, ça suffit, c'est bon. Là, j'en ai assez. Ok, pas de souci. On va à ton rythme. L'important, c'est de... Il vaut mieux avancer doucement que revenir en arrière. Hein. C'est des âges où... Voilà, c'est des enfants qui vivent très mal la frustration et les échecs. Donc, comme beaucoup d'enfants, mais là... C'est démesuré. Du coup, ben voilà, on avance à ton rythme, tranquillou. Et ça, c'est des petites victoires. Et ça, ça fait du bien. Et tu raccroches des enfants à des choses dont ils ont besoin, malgré tout.
Et des apprentissages, voilà. Oui, pour ne pas être complètement exclu, du coup.
C'est ça, c'est ça. Toi, tu projettes sur sa vie d'adulte. Lui, il n'en est pas là. Mais bon, hein, on n'est rien aujourd'hui. C'est très difficile aujourd'hui d'être juste dans le déchiffrage, le décodage de la lecture à l'âge adulte. Et du coup, ben voilà,
ça fait plaisir.
Ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir les enfants partir.
Mais oui, parce que si c'est pour un mieux, du coup,
tout à fait.
C'est chouette.
Faut pas oublier que, alors l'internat dans les ITEP, c'est particulier parce qu'on appelle ça un internat thérapeutique.
Oui.
Où ils viennent à l'internat parce que au-delà de leurs troubles qui les empêchent d'être dans les apprentissages, où ils ont des souffrances, donc toute la dimension est, pédagogique, thérapeutique, ben ils vivent des situations difficiles à la maison.
Mmh.
Voilà. Et des fois, c'est tellement compliqué que ça exacerbe les troubles. Les familles sont à bout et du coup, sont pas toujours... sur la bonne ligne, les enfants expriment énormément de choses envers leurs parents ou pas du tout, à contrario, et ça explose ailleurs, donc c'est pas bon non plus. Donc on a un internat thérapeutique et là on est sur une autre dimension parce que c'est des internats, la moyenne c'est 2 nuits par semaine. Voilà, ça, bon, ça peut aller jusqu'à 3 ou 4, à savoir que les ITEP sont fermés les week-ends. Hein.
Donc, retour en famille.
Retour en famille.
Famille d'accueil ou pas.
Ou famille d'accueil ou MEX, pour les enfants qui vivent aussi en foyer. Et la moyenne, oui, je trouve que c'est une bonne moyenne. 2 nuits par semaine, où là, on vient vraiment mettre au travail des choses. On n'est pas que sur de l'apprentissage des règles, l'éducatif et tout ça. On vient vraiment apprendre à l'internat à comment composer soi-même. Je parle des enfants.
Hein.
On leur apprend vraiment à comment faire avec ce qu'ils sont. Voilà, et dans
comment,
un groupe.
Comment faire avec comment ils avec ont été l'autre. Construits, quoi.
Voilà,
ouais,
c'est ça. Comment faire avec ce que t'es avec l'autre. Et l'éducateur, il est là pour t'accompagner là-dedans, pour t'aider là-dedans à gérer toi, à te gérer toi, à gérer les autres aussi, parce que du coup, ils se prennent les troubles des autres en pleine figure, hein, tout autant que eux en voient les leurs. Et moi, c'est plus ça que je retiens. Je reviens au stagiaire parce que quand même c'est un peu un de mes fils conducteurs, mais beaucoup ont des appréhensions de venir hein, avec toutes les représentations des ITEP et beaucoup repartent en me disant bon souvent c'est les stages de 3e année donc qui durent pratiquement un an, tous repartent en me disant ben voilà j'ai vraiment appris à décoder, à comprendre, à accompagner tout au long du truc, tout au long de la prise en charge de l'enfant et de cette dimension, voilà, personnalisée, où on réfléchit, on décode,
ils sont en mode enquêteur, recherche.
Et finalement, oui, il y a des épisodes de violence. Oui, il y a des contentions. Oui, il y a tout ça. Mais c'est extrêmement réducteur de dire... Alors, et oui, des fois, c'est 10 fois par jour. Quoi, on va pas se mentir. Voilà. Oui, des fois, c'est 10 fois par jour. Mais tout ça, ça fait partie d'une toile plus grande. Quoi. Et bon, après, il faut supporter. Hein.
Oui, c'est ça. Il faut quand même avoir les épaules.
faut quand même supporter. Donc, on est toujours sur les petits trajets de voiture hein, qui font du bien.
Important, nécessaire.
Voilà.
Ça marche. Merci. Pour conclure, je vais te poser les trois petites questions.
Oui.
Que je pose à tous les invités. Donc, si tu avais la fameuse baguette magique dans ta main, là, tu ferais quoi ?
Si j'avais la fameuse baguette magique dans ma main, j'enlèverais toutes les grosses institutions, usines qui accueillent beaucoup trop de dizaines d'enfants. Je créerais des pavillons. Voilà, des petites unités.
Okay.
Bon, je parle essentiellement là de la protection de l'enfance, de ce que je connais, de ces grosses institutions où il y avait plusieurs petites institutions qui déménagent et qui reviennent tous au même endroit. Et où on a des centaines d'enfants au même endroit, des dizaines et des dizaines. Voilà, si j'avais une baguette magique, j'offrirais la possibilité de créer des lieux beaucoup plus petit et cocoonant.
Tu fais de l'individuel, mais j'imagine que c'est par aussi ton expérience, ouais. Ce que tu traverses. Ok.
Tout à fait.
Si tu devais faire autre chose, ça serait quoi ? Bon, tout à l'heure, tu m'as dit non, je vais pas.
Alors, si je devais faire autre chose.
Mais aujourd'hui, voilà.
Aujourd'hui, je suis dans un processus de passer chef de service,
okay.
De passer un master. De reprendre mes études,
voilà. Okay.
Master MAE, Management des administrations et des entreprises.
Okay.
Voilà. Donc aujourd'hui, je suis dans cette démarche-là,
okay.
De faire mon travail autrement. Et là, voilà, là, c'est les futurs projets.
Je te souhaite de réussir ce master, du coup. La tradition veut qu'un invité t'a posé une question.
Oui.
Et que tu vas poser une question au prochain invité. Donc, question, lourde question. Que changeriez-vous politiquement en lien avec le travail social ?
Bah, du coup, ça regroupe un petit peu avec ma baguette magique.
Ouais, hein, c'est ce que
on
tu
est
disais.
Sur, j'ai travaillé avec différentes politiques locales sur les régions, sur les trois régions dans lesquelles j'ai vécu. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que ça s'est quand même beaucoup dégradé. Le travail social et pas qu'une histoire de budget, une histoire de prise en compte aussi. J'ai vécu quand même sur Albertville où ça faisait vraiment partie de la ville, on était vraiment inscrits, ce que je disais tout à l'heure, et où du coup et après perdu dans des grandes villes où le travail social est pas perçu de la même façon, etc. Et je me dis que c'est pas qu'une histoire de budget. C'est aussi une histoire de politique qui okay. porte ces projets. Donc, voilà. Il y a cette idée quand même d'offrir des lieux de vie un peu plus satisfaisants pour les enfants sur des petites unités, mais sur une échelle plus large, je dirais que de faire en sorte qu'il y ait des gens qui vraiment portent des projets au niveau politique et de faire en sorte que des gens ils soient investis de ce qu'ils ont dans les mains. Voilà. Et pas que le travail social soit juste un dossier.
Oui.
Voilà, comme la finance, comme tout un tas de choses. Le travail social, faut pas l'oublier, on travaille sur de l'humain.
C'est l'humain, oui.
Et dans ces
et c'est l'avenir.
Instances-là,
quand tu
on oublie l'humain. On parle de quantité, de nombre, de pourcentage d'enfants qui font ceci, d'enfants qui relèvent de la protection d'enfance, de machin, de trucs, de bidules. Il y a beaucoup de statistiques, de pourcentages, de tout un tas de choses, mais on voit pas de politique tenir, quoi, porter vraiment. Alors peut-être que je dis pas qu'il y en a pas. Je dis juste qu'ils sont pas mis en avant.
Ouais, ok.
Voilà.
Ça marche.
Mais c'est une question difficile.
Merci, oui, c'est une question très, très large et oui. Mais merci d'y avoir répondu. Je te laisse poser ta question au prochain invité.
Alors, ma question, elle va être un petit peu bateau, mais elle fait écho à tout mon parcours de vie. C'est-à-dire, est-ce que tu te vois toujours éducateur dans 10 ans ?
Okay.
Voilà. Une question de ce type-là. Est-ce que tu penses qu'un jour tu sortiras du social ou est-ce que tu en auras besoin ?
Ok, voilà. Ça marche. Merci beaucoup Amélie pour ce témoignage et ce beau parcours et pour tout ce que tu as pu mettre en avant pendant cet échange.
Merci à toi.
Merci, à bientôt.
À bientôt. You are wrong.
just have to be proud. Say it clear and loud, because what you defend is a gift in your hand. Just have to be proud, say it clear and loud. Invisible voice for unstoppable choice.